Bonsoir. Deux thèmes pour le débat de ce soir. Pour le seul mois de janvier 2020, le Trésor public congolais a collecté 18 milliards de francs congolais au titre de l'impôt professionnel sur la rémunération hyper en sigle. En réaction, le collectif des syndicats, associations et personnalités de l'enseignement supérieur universitaire dénonce la manière dont cet impôt a été prélevé par le gouvernement. 34 personnes tuées en 48 heures, c'est le bilan provisoire officiel des attaques perpétrées par les EDF dans les territoires de Mambasa et Irumu dans la province de l'Ituri. Ce sont les principaux thèmes de ce soir. Trois confrères journalistes participent à ce débat. Il s'agit de Nico Faye, il est journaliste au groupe de presse Le Monde et Top Média, paraissant à Kinshasa. Bonsoir Nico Faye.
Bonsoir estimé.
Innocent Kabukala, coordonnateur de Global Télévision et émettant de Kinshasa. Bonsoir Innocent Kabukala.
Bonsoir Guy.
Et Joska Kanyinda, éditeur du journal Le Millénaire, paraissant à Bounia en Ituri. Il est aussi président du conseil d'administration de la radio Merveille de Bounia. Bonsoir Joska Kanyinda. Joska Kanyinda, bonsoir.
Les amis qui sont là.
Bienvenue à tous dans cette émission. Nous allons voir comment la presse quinoise a traité l'actualité de la semaine en écoutant cette revue de presse que nous propose Kéline Kouté.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse par l'agence congolaise de presse qui revient sur l'arrivée mercredi 5 février à Kinshasa de la première ministre belge Sophie Wilmès pour une visite de travail de 2 jours. Une visite qui devrait permettre de sceller une amitié ravivée après une longue crise diplomatique belgo-congolaise liée au report des élections générales initialement attendues en 2016 et qui se sont finalement tenues le 30 décembre 2018, commente Le Potentiel. Dans le même ordre d'idées, la prospérité indique que l'axe Kinshasa-Bruxelles est à l'ère du réchauffement. Radio Capi.net informe pour sa part qu'à l'issue d'une séance de travail jeudi 6 février, la RDC et la Belgique conviennent de communier les efforts pour cheminer sur une voie de coopération gagnant-gagnant. Changeons de chapitre pour parler de l'impôt professionnel sur les rémunérations IPR en sigle. Desk Echo renseigne que l'impôt professionnel sur les rémunérations a rapporté au trésor public 18 milliards de francs congolais, soit plus de 10 millions de dollars américains au mois de janvier 2020, selon la ministre de la fonction publique Yolande Ebongo, s'exprimant lors d'une conférence de presse tenue le 3 février à Kinshasa. Un taux de 15% prévu par la loi fiscale est appliqué sans exception à l'ensemble des institutions nationales, provinciales, locales, mais également aux instances politiques, avait précisé l'administration fiscale selon Forum des As. Au chapitre sécuritaire, pour terminer, 34 personnes tuées en 48 heures, c'est le bilan provisoire officiel des attaques perpétrées par les ADF dans les territoires de Mambasa et Irumu, dans la province de l'Ituri. Actualité.cd, de son côté, parle d'au moins 3000 déplacés enregistrés après les attaques des présumés rebelles ADF en Ituri.
Merci, Kéline Kouté. Un commentaire, Nico Faye, journaliste au groupe de presse Le Monde et Top Média, paraissant à Kinshasa. C'est quoi l'actualité de la semaine et que vous commentez ce soir?
Oui, merci beaucoup, estimé, pour l'opportunité. L'actualité qui m'avait marqué la semaine pendante était la question liée à une éventuelle dissolution de l'Assemblée nationale qui avait été évoquée par le président de la République Antoine durant son séjour à Londres. Mais je suis content que mon cri de cœur ait été entendu dans la mesure où certains faucons, certains caciques avaient soutenu Mordicus à ce que le président de la République aille jusqu'au bout de cette logique. Je l'avais déconseillé dans la mesure où on ne pouvait pas embarquer le président de la République Antoine dans une démarche suicidaire, dans une démarche sans fondement, dans la mesure où depuis qu'il y a eu investiture le 24 janvier 2019 jusqu'à ces jours, il n'y a jamais eu une crise persistante entre l'Assemblée nationale nationale et les gouvernements. Mais curieusement, à ma grande surprise, le président Antoine a évoqué cela. Moi, je suis en train de me poser la question.
Quand vous parlez du président Antoine, c'est Félix Antoine Tshisekedi.
Tout à fait.
Je suis en train de me poser la question.
Qu'est-ce qu'on entend par crise persistante? Est-ce que le fait pour qu'un ministre de la République s'oppose à une décision du président de la République, est-ce que cela est synonyme d'une crise persistante entre l'Assemblée nationale? Heureusement, dans le même ordre d'idées, il y a eu la speaker de l'Assemblée nationale qui a eu à rappeler, qui a eu à remettre en ordre le président de la République pour lui faire voir que dans le cas d'espèce, il n'y a pas une crise. Et si par un pur hasard cela arrivait, que le président, de même que la Constitution lui reconnaît dans une certaine mesure la possibilité de dissoudre l'Assemblée, de la même manière aussi, la même Constitution reconnaît au président du Sénat et au président de l'Assemblée de déférer le président de la République devant la Cour constitutionnelle.
Oui, on voudrait juste préciser que le président de la République n'a jamais dit qu'il est en train de dissoudre l'Assemblée nationale, mais il avait dit qu'ici il y a une crise, n'est-ce pas, qu'il oblige à le faire, il le ferait parce que cela est constitutionnel.
Non, c'est cette question-là, parce que dans le cas d'espèce, ici nous devons voir l'esprit et la lettre. Quelle est l'intention qu'il avait animée? Il a dit ceci, qu'on ne m'épouse pas. Est-ce que, dans le cas d'espèce, quel est le grief qui avait été posé pouvant le pousser à arriver à prendre cette décision?
Merci.
Ce n'était pas une décision à envisager par le temps qui court, dès lors qu'il n'y a pas une crise jusque-là entre l'Assemblée nationale et les gouvernements.
Merci. Innocent Kaboukala, coordonnateur des Global Télévisions émettant de Kinshasa. L'actualité, c'est aussi la visite en RDC de la première ministre belge.
Oui, c'est vrai que pour la première fois depuis que la Belgique est Belgique, on a à la tête du gouvernement une dame. Nous pensons que avec le dernier passage du président de la République dans le cadre du réchauffement des relations entre la RDC et la Belgique, nous pensons que cette visite est inscrite dans ce cadre-là. Pour justement une espèce de réponse en fait des officiels de la Belgique par rapport à cette démarche menée du reste par le président de la République, on s'en souvient, l'année dernière. Alors, mais si vous permettez juste deux petites minutes, je voudrais quand même rebondir sur
les propos de
notre confrère, et vous-même vous l'avez dit, heureusement vous l'avez recadré, et pour enfoncer dans ce que vous avez dit, le président de la République ne l'a jamais déclaré, ne l'a jamais dit, et c'est quand même bizarre que c'est au niveau de la presse qu'on alimente ce genre de débat, alors qu'il n'y en a pas un. Le président de la République s'est exprimé sur des choses qui n'ont rien à voir avec cela, mais dans ses déclarations, il a fait allusion à cela, et ce qu'il a dit n'avait rien de décision. Mais c'est simplement que le président de la République est arrivé à un constat par rapport à la marche générale du pays, qu'il y avait des éléments qui indiquaient clairement que certains ministres ne rentraient pas dans le cadre de sa vision, n'allaient pas dans le sens de son slogan « le peuple d'abord », et que si de telles situations pouvaient continuer, d'autant plus que c'est d'abord une révélation qui lui avait été faite par certains membres de ce même gouvernement, mais que lui n'avait pas encore tous les éléments possibles tendant à ramener une pareille décision. Et donc, il s'est exprimé ainsi. Et si jamais des choses arrivaient, voilà ce qui peut arriver. Mais c'est quand même regrettable que quand on constate la presse qui se comporte comme vraiment les réseaux sociaux et en alimentant dans le sens de polémiques. Vous entendez ce que moi je qualifie d'une menace qui n'a pas son fondement. Mais autant le président peut dissoudre de l'Assemblée nationale, autant les deux présidents des deux chambres du Parlement peuvent initier,
enclencher,
accuser, même sans donner un contenu de cela, mais on le dit quand même.
Merci.
Vous comprenez que c'est quand même assez curieux pour la presse ici chez nous.
Josko Kanyinda, éditeur du journal Le Millénaire, paraissant à Bounia, en Ituri. Vous êtes aussi président du conseil d'administration de la radio Merveille de Bounia. Qu'est-ce qui domine l'actualité aujourd'hui à Bounia, en Ituri? Josko Kanyinda? Allô, Josko Kanyinda. Apparemment, il n'est pas là. Ça nous permet de passer à notre premier thème de ce soir. Le trésor public congolais a collecté 18 milliards de francs congolais au titre de l'impôt professionnel sur la rémunération hyper en sigle pour le seul mois de janvier 2020. L'information a été donnée lundi dernier par la ministre de la fonction publique au cours d'une conférence de presse à Kinshasa. L'hyper est prélevé chez les fonctionnaires congolais depuis le mois dernier. Selon Yolande Ebongo, en prélevant cet impôt, le gouvernement ne fait qu'appliquer les lois qui ont été votées au Parlement. D'autres points avec Blaise Makassi.
Dans la loi de finances 2020, note la ministre de la fonction publique, il est inscrit l'application de l'impôt professionnel sur le revenu selon la tranche barémique de tout fonctionnaire de l'État. Cela permet de mobiliser les ressources pour améliorer les conditions de vie des populations et les pouvoirs d'achat. Yolande Ebongo.
L'impôt est fixé à 3% pour la tranche de revenus de 0 francs à 1 944 000 francs congolais, 15% de 1 944 000 1 franc congolais à 21 600 000 francs congolais, 30% de 21 600 000 1 franc congolais à 43 200 000 francs congolais, 40% pour le surplus.
Pour elle, la préoccupation fondamentale est l'amélioration du traitement des agents et fonctionnaires de l'État. Elle plaide pour l'implication de tous dans la sensibilisation des compatriotes à payer l'impôt parce que les résultats obtenus au mois de janvier sont très encourageants.
Aujourd'hui, le trésor public a pu encaisser près de 18 milliards pour le mois de janvier.
La ministre de la fonction publique promet l'organisation d'un atelier sur la politique salariale, la mise en retraite d'au moins 17 000 fonctionnaires, le rajeunissement de cadres de l'administration et les mécanismes à mettre en place pour démanteler les réseaux d'effectifs et maîtriser les effectifs des agents de l'État.
Alors que la ministre de la fonction publique se félicite de l'enveloppe ainsi récoltée, le collectif des syndicats, associations et personnalités de l'enseignement supérieur universitaire dénonce la manière dont cet impôt a été prélevé par le gouvernement. Ce collectif estime que les pourcentages n'ont pas été respectés. Au cours d'une réunion organisée lundi dernier à l'université de Kinshasa, cette structure syndicale demande au gouvernement de ne retenir l'hyper que sur le salaire des bases et non sur les primes. Le professeur David Deloubeau, président de ces collectif revient sur les principales recommandations formulées à l'endroit du gouvernement. Il est joint par Blaise Makassi.
Une maman qui balaye nos bureaux touche 100 000. On lui a retenu 30 000 francs congolais. Dans quelle arithmétique ou 30 000 sur 100 000, c'est 15%. Ça veut dire que c'est des choses qui ont été faites dans la précipitation et qui doivent être réparées. L'impôt est un devoir pour tout citoyen civilisé, mais pour nous, pas d'avoir une rémunération dividende de rubrique, salaire de base et les primes. Nous disons d'accord avec l'impôt, mais sur les salaires de base, tout ce qu'on a retenu devrait être remis. Et nous pensons que ça, c'est sadique et ça doit se corriger sous peine de nous voir entamer dans un bref délai les actions de grande envergure. On vous paye 2 millions quelque chose, on vous retient 500 000. Ça s'est fait dans quel pays?
Merci à Blaise Makassi qui nous a fait tous ces reportages. Nico Faye, journaliste au groupe de presse Le Monde et Top Média paraissant à Kinshasa. Et comment vous réagissez à cette annonce faite par la ministre de la fonction publique pour le seul mois de janvier, l'État a pu collecter 18 milliards de francs congolais au titre de l'hyper?
Oui, je suis un otage de principe et esclave de la science. Je ne peux m'opposer à ce que l'impôt soit prélevé. Devons d'abord rappeler que l'impôt est une prestation pécuniaire, obligatoire, définitive, sans contrepartie visible. Et pour cela, il doit être distingué de la taxe. Lorsque l'État prélève l'impôt, la population n'a pas droit de demander à l'État ce qu'il en a fait. Oui, c'est bien beau que l'État prélève l'impôt, mais nous devons aussi nous poser la question, on prélève l'impôt sur quoi ? Sur ce salaire de honte, c'est là où se pose le problème. Comment voulez-vous qu'un agent fonctionnaire de l'État qui vous touche 120 000 francs congolais et qu'on lui prélève l'impôt de 3%. Lorsqu'on lui prélève 3%, il va rester avec combien ? Il doit se payer le transport tous les jours pour arriver à son poste de travail. Aujourd'hui, chaque tronçon a un prix, c'est-à-dire l'agent ou bien le fonctionnaire de l'État qui perçoit 120 000 francs congolais, lorsqu'on retranche le 3%, il va rester avec combien? Le transport, les loyers, la facture de l'eau et de l'électricité. Il ne faut pas oublier qu'à Kinshasa aujourd'hui, la facture de la régie des eaux tourne autour de 50 $ par ménage aujourd'hui. Tout ça, c'est bien. L'État doit chercher à maximiser ses recettes, mais doit aussi changer à majorer aussi les salaires des agents et fonctionnaires de l'État. Et sur quoi l'IPR doit être prélevé? L'IPR ne peut pas être prélevé sur la prime. L'IPR doit être prélevé sur le salaire. Mais d'après les échos, on est allé jusqu'au-delà de salaire. On encourage l'État à prélever, mais il faudrait que l'État arrive aussi à majorer les salaires des agents et fonctionnaires de l'État.
Merci, Innocent Kabuka, la coordonnateur de Global Télévision émettant de Kinshasa. Le gouvernement se félicite de cette collecte pendant que les agents de l'administration publique se sentent lésés, dénonçant la manière dont cet impôt est prélevé par le gouvernement. Est-ce que vous comprenez les plaintes des agents par rapport à l'IPR? Vous venez de suivre Nico Faye qui se pose la question, prélever l'impôt sur un salaire de la honte.
Non, moi je ne pense pas qu'on doit réfléchir de cette manière-là. La première des choses, c'est qu'il a bien expliqué au départ que cette imposition est légale. Et que ça doit passer tel quel dans les têtes de nos amis qui sont à la fonction publique. On doit se mettre d'accord sur ce sujet. Mais il ne faut pas que cette question soit une fois de plus politisée. Parce que c'est ça le grand problème dans notre pays. On a toujours comme l'impression que tout ce que le gouvernement peut faire et doit avoir un caractère purement politique. Et c'est comme ça qu'il y a toujours de l'agitation avec des syndicalistes à gauche, à droite. Quand vous suivez dans le speech de Madame la ministre, elle a bien dit que tout autant qu'on est en train de faire ce travail, mais aussi très bientôt, elle a annoncé un forum qui devra réfléchir sur
l'amélioration
de salaire. Donc, il faut commencer quelque part. C'est vrai que quand on commence une mesure, des habitudes qui n'étaient pas là, et maintenant on commence à les appliquer, ça fait quand même des mécontents. Mais en même temps, on souffre, mais il y a déjà une solution dans un bref temps. Il y aura quand même une amélioration qui pourra permettre à ce qu'on puisse compenser à ces pleurs-là. Mais le plus important, c'est qu'il faudrait que les gens comprennent que l'imposition est légale et que tout ce qui commence à être appliqué tel quel, parce que les retombées, ça viendra sur qui? Parce que c'est un fait social. On sait que quand le gouvernement va collecter, va avoir beaucoup plus de moyens, le gouvernement devra songer effectivement à améliorer le social de tous ces travailleurs-là. La prime en question ne provient que lorsque l'État a plus de moyens. Et parmi les ressources de l'État, c'est notamment les différentes taxes et les impôts qu'on collecte, soit directement sur le personnel de l'État, comme le cas présent de l'IPR, et les autres taxes sur d'autres catégories sociales.
Merci. Josco Kanyunda, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là, je suis avec.
Voilà, je rappelle que vous êtes éditeur du journal Les Millénaires, paraissant à Bounia, en Ituri. Vous êtes aussi président du conseil d'administration de la radio Merveille de Bounia. Vous avez suivi les reportages qui a été réalisé par Blaise Makassi. Dans ces reportages, la ministre de la fonction publique a affirmé que l'IPR est prélevé de la manière suivante. 3% pour un revenu de 0 francs congolais à 1 944 000, 15% de 1 944 000 à 21 600 000 francs congolais, 30% de 21 600 000 francs congolais à 43 200 000 francs congolais. Alors, non seulement les assujettis affirment que cette répartition n'a pas été respectée, mais aussi que ces prélèvements pèsent énormément. Alors, la question qu'il faut se poser, faut-il beaucoup de sensibilisation par rapport à ces nouvelles impôts, parce qu'en fait, c'est une nouvelle réforme, ou il faut carrément revoir à la baisse ces différents prélèvements?
Confond, je dois vous dire franchement que moi aussi je suis surpris de voir ce que le gouvernement est en train de faire. Il y a un principe dans la gestion des ressources humaines, les avantages acquis ne doivent pas être réduits à la baisse. Quelqu'un qui était déjà habitué à vivre avec ses 120 000 francs par mois, et il a déjà son budget, tout le monde, il sait qu'avec mes 120 000 francs, il peut faire ça et ça et ça. Et puis du coup, on lui dit que sur ces 120 000 francs-là, on doit réduire quelque chose. Ça fait un problème dans son ménage. Je crois que là, quelque part, le gouvernement n'a pas songé à cet aspect des choses. Je pense aussi que c'est réjouir du fait qu'on a collecté beaucoup d'argent, c'est bien, mais on a collecté sur qui? sur les agents qu'on contrôle, les agents de l'État. Mais je me pose la question, est-ce que les domestiques qui sont dans nos maisons, on peut les faire sur eux? Est-ce que les taximens qui travaillent dans les taxis qui sont payés par les patrons, on pourrait les hyper sur eux? Je pense que le gouvernement aurait mieux fait d'aller là où il y a beaucoup de gens, c'est-à-dire les autres catégories, parce que déjà nous connaissons que les fonctionnaires de l'État sont les moins payés du pays et pour ne pas dire les mal payés du pays, aller encore prélever sur ceux qui ont le peu d'argent, c'est bien, c'est légal, mais il aurait bien fallu d'abord améliorer leurs conditions avant de passer à prélever ces fonds. Moi je pense que le fait d'avoir prélevé avant d'avoir amélioré, ça préjudice ses familles. Et moi, je vivais avec mes 100 000, je dois vivre maintenant avec 80 000. Ça pose un problème d'habitude familiale. Et je pense que sans vouloir refuser que l'impôt soit légal, il faut vraiment qu'on tienne compte du vécu quotidien des fonctionnaires de l'État et qu'on aille plus vers les autres secteurs où il y a beaucoup d'argent qui ne rentre pas dans les caisses de l'État, qui pouvait venir améliorer les conditions sociales des fonctionnaires de l'État.
Nico Faye, il faut améliorer, il faut commencer d'abord par améliorer les conditions salariales des fonctionnaires avant de commencer à prélever l'hyper. C'est ce que vient de dire Joska Kanyinda. Mais vous avez suivi Inosaka Kabukala qui, lui, salue la démarche. Il estime que c'est une bonne démarche, malheureusement qui tend à être, n'est-ce pas, politisé.
Non, écoutez, je suis abasourdi, estomaqué et effaré lorsque Innocent dit qu'il faut encourager. Bien sûr. Pourquoi vous faites usage sélectif des lois de la République, des dispositions qui vous encouragent? Mais nous devons...
Quand vous parlez de l'usage sélectif, vous voulez parler de quoi?
C'est-à-dire, est-ce qu'il fallait commencer par prélever dans les miettes des agents et fonctionnaires de l'État congolais? L'État paye à beaucoup de ressources, l'État a beaucoup de sources d'argent. Moi, je me dis, soit l'État ne sait pas comment les générer, soit il est complice. Comment voulez-vous que lorsque vous allez dans les cours des tribunaux, aux greffes, tout l'argent que les greffiers perçoivent là, c'est l'argent qui aurait dû entrer dans les caisses de l'État? Un greffier peut quitter son bureau chaque jour au moins avec 200 dollars. Mais dans le miette que les agents et fonctionnaires touchent, vous commencez par les appauvrir davantage. Moi, je pense, l'État aurait dû commencer par donner des bons salaires et prélever dedans. Pour un fonctionnaire qui n'a ni frais de...
Par rapport à la question, la ministre a dit qu'il y a un atelier.
Écoutez,
qui a envisagé l'objet de l'atelier, c'est de voir comment améliorer les conditions salariales des fonctionnaires.
Les Congolais n'ont plus besoin de forums, de colloques. Les Congolais ont besoin des actions. Est-ce que pour donner des solutions, il faut aller dans un colloque?
Si on vous a bien compris, il y a des préalables qu'il fallait accomplir, notamment mettre en place des mécanismes pour bien canaliser les recettes de l'État.
Écoutez,
et aussi améliorer les conditions de vie des fonctionnaires.
Les salaires,
ça.
Le travail a un caractère humanitaire, mais le salaire a un caractère alimentaire. Comment voulez-vous que quelqu'un qui vous coûte tous les jours le matin, qui va au travail, mais qui ne sait pas réunir le début du mois avec son salaire? Lorsque son enfant est malade, lorsque sa femme met au monde, il faut recourir aux emprunts, il faut aller mettre en gage son poste téléviseur. Vous trouvez ça normal? Et là, vous demandez que non, on doit commencer par quelque part. Par exemple, parce que vous dites que l'État n'a pas l'argent. Vous avez suivi le rapport de l'ODEP sur le plan d'urgence du chef de l'État. Il y a plus de 2 milliards de dollars qui sont sortis de la caisse de l'État. Mais après évaluation faite de travaux, des ouvrages faits sur terrain, les dépenses engagées réellement sont en deçà de 500 millions de dollars. Cet argent-là aurait dû servir à majorer d'abord le salaire des agents et fonctionnaires de l'État et par après les structurer l'UPER.
Merci.
Je ne suis pas opposé à l'UPER, mais néanmoins, on doit faire la part des choses. Là où l'État perd beaucoup d'argent, on ne retire pas les impôts. Mais Merci. Là où il n'y a pas l'argent, on cherche à grignoter les impôts là-bas.
Inosa Kabukala, votre réaction par rapport aux propos de Nico Faye?
Ne faisons pas de l'amalgame. Ici, nous parlons...
Il y a des préalables qu'il fallait accomplir avant de prélever l'hyper.
Non. Les préalables, ça dépend. C'est une méthode qui peut arriver. Selon lui, on devait commencer par d'abord améliorer les conditions de vie des fonctionnaires de l'État.
Mettre en place des mécanismes de canalisation des recettes de l'État.
Non. Dans ce pays, il faut savoir que nous avons tellement été en recul, en retard, en grand retard, sur tous les plans, que pour le moment, on a besoin de commencer des actions dans tous les cas. D'abord, cette action ici, je crois que les gens n'ont pas suivi l'esprit de Madame la ministre. Ça ne tarde pas, ça devait commencer. Quand il y a une réforme, avant que les gens ne s'y accommodent, il y a toujours quelque part des douleurs qui peuvent arriver. Mais ce serait suicidaire si jamais, dans l'entretemps, Madame la ministre n'avait pas prévu cet atelier pour pouvoir améliorer cette question-là. Parce que c'est pour dire que le gouvernement est également sensible pour cette catégorie de personnes, donc les fonctionnaires de l'État. Et ici, nous parlons de la question précise de l'IPR. Nous sommes au niveau de la fonction publique. Mais on me dit, donc voilà, il y a aussi ailleurs, pourquoi on n'a pas commencé ailleurs ? Non, nous parlons de ce cas précis. Ailleurs, quelles sont les démarches que Nico ici a fait pour pouvoir retrouver ce qui se passe ailleurs ? Moi, je vous informe, par exemple, au niveau de la DGAC. Il y a les autres types d'assujettis. Et aujourd'hui, si vous allez à la DGRK, vous allez constater que les gens, non seulement que la sensibilisation se fait, mais également, les gens, de plus en plus, ont acquis de l'habitude et on commence à payer. Et il y a, de ce côté-là, des signaux qui sont très forts.
La sensibilisation, est-ce que vous pensez que cette étape a été bien respectée par le gouvernement, la sensibilisation par rapport à cette nouvelle réforme ? C'est la même remarque qui a été formulée à l'endroit du gouvernement passé au sujet de la TVA.
C'est très bien. Le problème ici, c'est que, je viens de le dire, l'urgence dans ce pays atteint pratiquement tous les secteurs, au point qu'on n'a pas vraiment le temps à perdre. Et que, pendant qu'on est en train d'appliquer, il y a aussi des mécanismes qui sont pris en termes de sensibilisation. Mais le problème, c'est que le mouvement syndical, là, à côté de cette réclamation par rapport aux fonctionnaires, mais il y a aussi les aspects sensibilisation, mais ils ne le font pas. Dans la plupart des cas. Ils estiment qu'il faut plutôt se montrer plus humanitaire que le gouvernement, et comme ça on se fait applaudir parce qu'on a pris une position en faveur des fonctionnaires de l'État. Mais c'est aussi parmi les éléments de leur tâche.
Oui, dans l'opinion aujourd'hui, ils se posent cette question par rapport à la gestion de cet impôt. L'expérience passée pousse certaines personnes à émettre des doutes quant à la gestion de cet impôt, ainsi que son impact réel, n'est-ce pas, sur l'amélioration du vécu quotidien des citoyens congolais. Hein. On se rappelle tous les débats qui sont encore actuels aujourd'hui sur la TVA.
Chers confrères, on ne peut pas justifier ce point de vue qui, à mon sens, est tout simplement comparatif. Donc, on compare parce qu'il y a eu un gouvernement par le passé qui n'a pas réalisé telle autre chose. Donc, nécessairement, sur base de cette expérience, non, mais non. Je crois qu'il y a eu un changement. Donnons quand même un peu de crédit à ce gouvernement qui vient d'arriver. Et je pense que le gouvernement n'a pas encore atteint la barre de 6 mois. Et donc, il est en train de se battre pour pouvoir réaliser un certain nombre de choses. C'est vrai que dans notre pays, le mal était tellement profond que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut trouver les meilleurs. Mais regardons au moins la chose au niveau des intentions et les peu de gestes qui sont posés. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu mon confrère parler des actions, mais il ne m'a pas donné le contenu des actions. Mais les actions à mener, c'est quoi ? C'est que non seulement on va sensibiliser, mais aussi en même temps, pendant qu'on a retiré, on a prévu également la possibilité de pouvoir améliorer ce salaire. Et si vous allez au bout de l'intervention de Madame la ministre, c'est même chronométré, jusqu'en 2021, on peut même atteindre la barre d'au moins 150 $, l'équivalent de $150 de paiement pour au niveau du huissier.
Merci. Donc, de ça,
ça veut dire que c'est une situation qui est prise en compte et elle va s'améliorer selon que le temps est en train de passer. Mais c'est jamais que les fonctionnaires sont abandonnés.
Jusqu'à Kanyinda, comment faire pour permettre au gouvernement de continuer à mobiliser ses ressources à travers l'IPR sans pour autant que cela ne puisse préjudicier les agents de l'administration publique?
Moi, on a mis la charrue devant les bœufs. Il aurait fallu commencer par ce forum-là et la sensibilisation avant de commencer à prélever cet impôt-là. J'insiste sur le fait que il y a un collègue qui veut me dire là, les salaires ont un caractère alimentaire. Donc quelqu'un qui était habitué à acheter son sac de riz chaque fin du mois ne saura plus l'acheter, c'est moi ici. Le temps qu'on améliore les salaires, ça prendra un ou deux ou trois mois. Donc pendant ces 3 ou 4 mois-là, il ne saura plus acheter son sac de riz. C'est là un peu que le gouvernement a commis une erreur. Il c'est vrai, il doit prélever l'impôt, mais ils doivent savoir que les agents étaient déjà habitués à vivre avec un salaire, et ce salaire-là, c'était devenu une habitude dans leur foyer. Il ne fallait pas couper ça avant d'avoir amélioré. Donc, on a mis la charrue devant lui. Mais moi, je préfère que le gouvernement se ressaisisse et qu'il améliore le plus tôt, comme ils l'ont fait ce mois. Ici, nous espérons que le mois prochain, il y aura un salaire qui va permettre qu'il récupère le pourcentage-là qui est perdu dans l'IPR. Mais si ce n'est pas le cas, ils vont faire souffrir les agents tous les temps que ça mettra avant qu'on améliore les conditions de vie. Alors moi, on a parlé des huissiers, mais les policiers prélèvent les amendes transactionnelles, ça n'arrive dans aucune banque. Il met dans les poches et ça va. On aurait pu commencer par ces choses-là qui est faites à l'État, au lieu d'aller aux agents de l'État qui, eux, reçoivent des miettes, alors que les autres mettent tout l'argent dans leur poche. Nous sommes ici à Bounia, vous voyez, les OPJ construisent, ils construisent de l'argent, des impôts, des amendes transactionnelles que l'État ne récupère pas. Pourquoi ne pas regarder dans ces choses-là qui peuvent renflouer les caisses de l'État, plutôt que d'aller sur les grands petits et les faire souffrir davantage?
Merci.
Nous encourageons que l'IPR soit prélevé, mais pas punir. Moi, j'appelle ça une sorte de punition. Tous les temps qu'on n'aura pas encore amélioré, ces gens-là ne vont pas vivre comme ils vivaient par le passé.
Oui, Nico Faye, on va aller rapidement. Et, parce que vous reconnaissez les caractères légaux, n'est-ce pas, de l'IPR, à votre avis, que faut-il faire pour permettre au gouvernement de continuer à prélever cet impôt sans que cela ne puisse gêner, ne puisse préjudicier les assujettis?
Oui, je viens d'écouter Estimé Innocent qui dit qu'il faut donner la chance. Et dans ces pays, on a donné la chance à ce qu'on construise les seaux de moutons. Aujourd'hui, les seaux de moutons constituent une souffrance pour la population. N'est-ce pas, nous avons donné du temps, nous avons fait confiance.
Mais les travaux ne sont pas encore achevés.
Les résultats, c'est quoi? Les travaux ont été annoncés pour 3 mois. On a annoncé pour 6 mois. Cadeau de Noël. Aujourd'hui, nous en sommes à 9e ou 10e mois. N'est-ce pas, la population n'avait pas donné la chance? On va donner la chance jusqu'à quand? Vous trouvez normal que dans un pays entouré, entre déchiré de cours d'eau, qu'on prélève, qu'on impose un impôt qu'on appelle TVA à 16%? Aujourd'hui, vous trouvez normal que nous ayons la douane, une des douanes les plus élevées au monde et que le budget est toujours de honte? Vous trouvez normal que nous soyons dans un pays où les imprimés de valeur coûtent cher? Notre passeport coûte combien? Citez-moi 2-3 pays que vous connaissez qui ont de budget faramineux, mais où l'on paye, où l'on achète un passeport à plus de 200 $. S'il te plaît, dites-moi, combien l'État génère dans le secteur de recettes, dans le secteur de tourisme? Oh, ailleurs, allez par exemple au pays de l'arc-en-ciel, seul dans le secteur de tourisme, l'État perçoit plus de 20 milliards de dollars américains. Est-ce que, dites-moi, combien l'État perçoit dans le secteur de bois? Vous avez suivi le rapport.
Ce
sont ces secteurs-là où l'État devait d'abord se pencher pour d'abord approvisionner les caisses de l'État et puis améliorer les conditions de vie.
C'est
que d'aller puiser dans le salaire de honte que touchent les anciens et fonctionnaires de l'État.
Merci, cela nous permet de passer à notre deuxième
thème. La compétition et la corruption.
Cela nous permet. On a compris. C'est un débat qui reste ouvert. Cela nous permet de passer à notre deuxième thème. De ce soir, 34 personnes tuées en 48 heures, c'est le bilan provisoire officiel des attaques perpétrées par les ZDF dans les territoires de Mambasa et Irumu dans la province de l'Ituri. Pour les cas des personnes tuées à Mambasa, l'administrateur du territoire précise que les corps mutilés des victimes ont été découverts après l'attaque. De son côté, le porte-parole de FRDC en Ituri a déclaré que l'armée est en pleine opération pour stopper ces violences des ZDF qui s'intensifient dans cette province. D'autres détails avec Martial Kiza Biamungu.
Ce carnage attribué au présumé rebelle ougandais des ZDF est enregistré dans les villages de Mandumbi, Makilidou, Motoloi, Moussoukousaboua, Massinzé, Kabiasa et Sangolo, à chefferie de Babilaba Bombi. Selon l'administrateur du territoire de Mambasa, Idriss Koma Kokodila, ces assaillants venus de la forêt de Mangida au nord Kivu se sont introduits simultanément dans ces entités. Ils tuent à coups de machette toute personne pendant leur passage. Au total, 23 corps sont déjà ramassés en espace de 3 jours, indique cette autorité territoriale. L'Organisation de défense des droits de l'homme, CRDH, indique que 13 corps ont été découverts le dimanche dernier, dont 6 à Makilidou et 7 autres à Moussoukousaboua et Motolé. 10 autres cadavres ont été découverts à Massenze et Kambiasa hier mardi. Les coordonnateurs de cette structure, Sivan Mwenda Kasereka, indique qu'il s'agit d'un bilan provisoire. Les porte-parole des FARDC à Ituri déclarent que les forces armées sont à pleine opération pour stopper ces violences des ZDF qui s'intensifient à Ituri. Pour rappel, 11 autres personnes ont été tuées lundi par des présumés ZDF à Ndalia, au sud d'Irumu. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Martial Kizabiamungu, merci beaucoup. Joshua Kanyinda, je rappelle que vous êtes éditeur du journal Le Millénaire paraissant à Bounia, en Ituri. Vous êtes aussi président du conseil d'administration de la radio Merveille de Bounia. Vous qui êtes sur place, est-ce qu'il y avait des indices qui pouvaient, n'est-ce pas, alerter sur une éventuelle attaque des ZDF en Ituri, attaque de cette ampleur?
Oui, mais il y avait des indices parce que dès lors qu'il y avait une pression militaire au niveau des Beni, il était prévisible que ces alliés pouvaient ou aller se réfugier. Parce que d'ordinaire, quand on commence les attaques à Beni, l'Ouganda s'organise pour amasser ses troupes le long des frontières qui les séparent du Congo, de sorte que les ADF n'aient pas l'occasion d'aller en Ouganda. Alors ces ADF-là quittent les régions Est en union avec l'Ouganda pour venir vers les régions Ouest. Ils traversent les routes vers la région de Mambasa. Et les amis des pays ont toujours déploré cette histoire-là, que les FARDC s'occupent pas tellement de la région Ouest. Les Ougandais qui mettent la pression dans leurs frontières là-bas, les ADF ne peuvent pas approcher leurs frontières, alors ils viennent vers les côtés de Mombasa. C'était vraiment prévisible et c'est pour ça qu'on avait déployé des troupes vers Oumanda avec mission de traquer ces gens. Mais aussi, il faut reconnaître que ces gens-là ne font pas une guerre classique, ce sont des gens qui n'attaquent même pas les cibles militaires, et ils débordent les militaires, ils vont attaquer les civils. C'est ce qui fait que parfois les militaires sont surpris d'apprendre qu'un village a été attaqué par ces troupes. Je suis en train de voir aussi que la pression qui a été à Beni pousse ces gens à aller vers les régions qui peuvent leur permettre de survivre, parce que ces gens-là, presque tous les groupes armés de l'Est ici, veulent être là où il y a des minerais et là où il y a inaccessibilité par les troupes. Pour la raison de Mambasa et les Sidirum, et Mambasa là, c'est une région forestière, et Mambasa a beaucoup de gisements d'or, et sûrement qu'ils aimeraient aller vers là et avoir l'occasion de puiser dans l'or et financer leur mouvement directionnel. Aussi, il faut avouer aussi que les militaires ont des petits pépins par rapport à la logistique. Si, par exemple, un citoyen vous dit que nous avons vu les ADF à 45 km de là où se trouve la position militaire, il se pose un problème pour qu'il se déploie. Il faut attendre que l'argent vienne d'ici par là. C'est ce qui pose des petits problèmes.
Merci. Inoussa Kabukala, coordonnateur de Global Télévision émettant des Kinshasa, comment vous réagissez à cette extension de la menace ADF en Ituri?
Chers confrères, c'est déjà une information qui m'attriste personnellement, et je crois qu'avec moi bien d'autres Congolais qui sont épris de paix, parce qu'en fait, lorsque l'on regarde le travail que nos FARDC ont abattu au niveau de la région des Beni et les résultats, je crois que nous étions tous pratiquement nourris de plein d'espoir que ces genres d'informations n'allaient plus les avoir. On est assez triste, mais je pense que, comme l'a dit le confrère, nos FARDC devaient une fois de plus tirer des leçons. Parce que si ces attaques ne concernent pas les positions de nos troupes, mais qu'on va s'attaquer à des civils, donc il faudrait que, évidemment, que nos FARDC puissent produire cette intelligence-là de manière à trouver des moyens à contenir ces assauts. Mais c'est aussi clair que quand ils ont été défaits quelque part, ces ADF, naturellement, ils devaient trouver de nouveaux terrains pour pouvoir survivre. Et c'est pour cela que moi, personnellement, j'encourage encore une fois de plus nos autorités à déployer et à multiplier encore des stratégies pour pouvoir les poursuivre jusque là où ils sont. Et cela démontre à suffisance, effectivement, qu'il y a lieu d'espérer quelque chose, parce que si nous sommes partis de Beni pour se retrouver à Ituri, donc cela signifie que ils sont quand même en train de s'enfuir, de s'en aller, et que il y a une possibilité qu'on puisse retrouver la paix dans cette partie-là.
Nico Fay, journaliste au groupe de presse Le Monde et Top Média, paraissant à Kinshasa, il faut que les FARDC tirent les leçons. C'est le propos des innocents Kabukala. Il y a des observateurs qui recommandent aux FARDC, n'est-ce pas, de repenser ces stratégies en mettant un accent particulier sur les renseignements, et que cela permettrait, n'est-ce pas, de localiser et de poursuivre l'ennemi là où il se cache effectivement.
Oui, écoutez,
repenser les stratégies,
s'il vous plaît. Vous savez, à cette question, j'étais toujours incompris. J'avais demandé en son temps au nouveau commandant suprême Antoine de ne pas perdre le temps dans le voyage, en pensant que non, cette question allait être résolue par ce que lui a appelé diplomatie. J'ai toujours dit que c'est une question essentiellement et principalement militaire. aussi longtemps que nous n'aurons pas une puissance d'effet supérieure à tous ces groupes armés, nous n'aurons qu'un désir pour pleurer. Comment voulez-vous, pour arriver à mener une guerre aujourd'hui, avant même que le militaire ne se lance sur le terrain, il y a le service de renseignement qui doivent d'abord aller infiltrer les camps adverses. Pourquoi Washington arrive à abattre les terroristes sur les territoires étrangers? On commence par infiltrer les milliers. Ah, mais je comprends. Avec votre budget de honte ici, je ne vois pas comment vous pouvez arriver à mieux soutenir les actions des services de renseignement.
Vous avez évoqué une question importante. Là, vous dites que c'est une question essentiellement militaire, mais en dépit des opérations militaires contre ces mouvements, on se rend compte que ces mouvements maintiennent sa capacité de nuisance. Et il y a même des experts aujourd'hui qui commencent à se demander si la solution à la problématique EDF est seulement militaire.
J'avais proposé, j'avais fait des propositions en son temps. Primo, commencer à ériger les murs les long des frontières posant problème.
Est-ce que c'est réaliste?
C'est réaliste. Pourquoi c'est impossible? Lorsque l'hyperpuissance qui se trouve être Washington a un mur les long des frontières avec le Mexique, entre Sofia et Ankara, il y a un mur. Entre Israël et Palestine, il y a un mur.
Il faut reconnaître qu'un fait, c'est que nous n'avons pas les mêmes réalités.
C'est-à-dire?
On n'est pas dans les mêmes contextes.
C'est-à-dire quoi?
C'est-à-dire que les populations au niveau des frontières entre ces États-là, ces populations vivent des échanges commerciaux.
Et vous pensez que non, entre Washington et Mexico, ils n'ont pas besoin des échanges? Vous allez sur les murs entre ses parents Washington et Mexico. Vous trouvez les maris de l'autre côté, la femme de l'autre côté, en train de parler, mais séparés par les murs.
Nico Faye,
est-ce impossible ça? Il faut canaliser les entrées et les sorties.
En quoi le fait d'ériger un mur entre la frontière ougandaise et celle de la RDC pourrait nous aider à défaire définitivement les EDF?
Je ne dis pas que non, on aura la solution zéro. Je ne dis pas qu'on aura la sécurité zéro, mais cela va minimiser, tamponner les incursions.
Merci.
Et de deux, poser les miradors et que maintenant toutes les entrées soient contrôlées.
Merci.
Je ne dis pas qu'on aura la sécurité zéro, mais néanmoins, ça va minimiser. Qu'au lieu de chercher à mener une guerre à longue haleine avec un budget de honte, la guerre coûte cher, trop cher même. Vous savez combien coûte un hélicoptère Apache? C'est 17 millions de dollars. Vous savez combien coûte un missile Tomahawk? C'est 650 000
et donc,
euros.
Et donc, vous voulez dire par là que la solution n'est pas que militaire?
C'est-à-dire, commencer par ériger un mur et maintenant prendre les groupes armés en étau.
Merci Innocent Kaboukala. Votre réaction par rapport à la proposition de Nico Faye, celle qui consiste à ériger un mur entre la RDC et ses voisins.
Vous savez, c'est trop beau. Hein. C'est trop beau de faire ce genre de propositions pour besoin d'éclat, hein, parce que bon, on nous entend, les gens suivent. Mais il faut être réaliste dans ce qu'on est en train de faire. Mais je pense que au stade actuel, la stratégie qui avait été mise sur pied a payé. Cette stratégie qui a commencé par la diplomatie, cette stratégie diplomatique. La stratégie diplomatique et aussi militaire. Donc on ne peut pas empêcher au président de la République d'effectuer des voyages pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent dans son pays. On ne peut pas occulter les démarches diplomatiques parce que il faut d'abord que les gouvernements qui sont concernés dans cette partie se concertent pour pouvoir réussir notamment la question de renseignement. Parce que lorsqu'on a parlé tout à l'heure, on a dit qu'il faudrait renforcer notamment le renseignement. Mais si ce sont des éléments qui sont alimentés par les gouvernements pour se neutraliser mutuellement, ça ne servait à rien.
Donc,
il faut que les gouvernements soient en bonne intelligence entre eux pour espérer échanger des informations.
Merci.
Et de manière à ce que, sous le plan militaire, que cela puisse suivre. Évidemment, on pourra terminer par d'autres situations du genre qu'il faudrait peut-être arriver à contrôler. Et c'est là que je pourrais être d'accord que quand on a réalisé, et parmi les autres solutions palliatives, on peut trouver effectivement la construction de certains murs à certains endroits où il y aurait ces problèmes. Mais on ne peut pas dire qu'au stade actuel, il faut construire un mur, et comme si on en avait les moyens et les mêmes réalités, comme vous l'avez dit.
Merci Josca Kanyinda. Votre proposition pour mettre fin à la menace EDF et pacifier l'Est du pays.
Oui, je pense qu'il faut qu'on fasse comme font les Ougandais et les Rwandais. Chaque fois qu'il y a du tumulte au niveau du Congo, les Ougandais amassent leurs hommes le long de leurs frontières, les Rwandais aussi le long de leurs frontières. Il fallait que nous aussi nous amassions, par exemple, nos hommes tout au long de la RN4, la route nationale numéro 4 qui relie Ituri et Beni là-bas, de sorte que quand on frappe ces gens qui n'aient pas le temps d'aller vers Mombasa, que tout se rentre soit au Rwanda, soit au Ouganda. Malheureusement, on les a laissés le temps d'aller vers Mombasa et élargir le champ de leur action. Aussi, je pense qu'il faut qu'on lutte sur l'affairisme de certains officiers. Comment voulez-vous un officier militaire qui est dans une zone réputée opérationnelle passe son temps à construire des chantiers? Il a 7 chantiers, il a 8 chantiers, il a 9 chantiers, il a des véhicules gros cylindrés. Je ne sais pas comment il va s'occuper de la guerre. Il y a cet affairisme-là qui joue très mal. Au point que, ici, il y a une opinion qui pense que la guerre fait du jus pour certains officiers et peut-être que ça perdure pour qu'ils aient des fonds noirs.
Merci, Jusqu'à.
Et la zone opérationnelle, plus que ça, il n'y a pas la zone opérationnelle.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Mimi Kindou qui était à la technique, à Kelly Nkouté, la réalisation sous la supervision d'Axel Goncho, à la présentation Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi.